m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs. Deux organisations de la société civile, AETA et ODEP, demandent à la population congolaise et aux partis politiques de rejeter catégoriquement le mode de vote semi-électronique envisagé par la CENI. Les deux structures estiment que le vote semi-électronique présente plusieurs désavantages. Il ne permet pas d'épargner des fonds et nécessite beaucoup de temps de préparation et de sensibilisation pour son approbation par la population et les agents électoraux. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081 890 49 69 et 09 97 40 06 49 69 pour vos interventions en direct. Vous pouvez aussi déposer vos commentaires sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Sylvain Matondou assure la mise en onde de ce magazine. Nico Kalambay est à la réalisation. Gir Lungembo est à la coordination. Et Pierrot et la Meiji vous le présentent sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs.
Fidèles auditeurs, nous sommes ensemble pour près de 55 minutes d'échange et de partage dans Parole aux auditeurs autour du processus électoral. AETA, ODEP demande à la population congolaise et aux partis politiques de rejeter catégoriquement le mode de scrutin semi-électronique envisagé par la CENI. Nous faisons le débat avec vous. Que pensez-vous de tout cela? Un débat très animé sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Mais nous avons aussi associé à cet échange Monsieur Alain Joseph Lomandia, qui est analyste des questions électorales. Monsieur Alain Lomandia, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et vous avez livré une réflexion très très intéressante qui a été reprise sur des journaux en ligne autour de cette question, les défis, les risques du vote semi-électronique en RDC. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que la peur de ces deux organisations de la société civile est justifiée?
Je comprends parfaitement la position de AETA et ODEP, mais j'ai juste une crainte. Il me semble que, en présentant les choses de cette façon-là, on risque de s'enfermer dans la logique du tout ou rien. Et quand on voit le débat tel qui se déroule actuellement, on se dit qu'il y a d'un côté, plus on est proche de la CENI ou du pouvoir, on dira que tout est blanc quand il s'agit du vote semi-électronique. Et plus on est côté société civile ou opposition, tout est noir. Et je pense que les choses sont beaucoup plus complexes que cette présentation un peu simplifiée. C'est pourquoi je pense qu'il faut déjà poser deux préalables avant d'évoquer les peurs des uns ou l'agitation des autres. Le premier préalable concerne la terminologie même. On dit bien que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Au niveau de la CENI, le vote semi-électronique a été peut-être bien conçu, mais la terminologie a été hésitante au départ. On a parlé tantôt dans des documents internes du vote électronique, puis on a abandonné ce concept, on a évoqué la machine à voter, et enfin on est arrivé au vote semi-électronique. Et tout ça a créé un peu de malentendu. Alors, je voulais juste préciser déjà les termes. De quoi s'agit-il? Quand on parle du vote électronique, on entend tout mode de vote dématérialisé qui permet le comptage automatisé des votes ou des voix et à l'aide d'un système informatisé. Et dans le terme générique qu'on appelle vote électronique, on a plusieurs variantes. Il y a le vote par Internet, le vote par machine à voter, le vote par téléphone ou SMS, ou le vote par boîtier. Or, ce qui a été choisi en RDC, c'est le vote électronique par machine à voter. Et pourquoi on le dit semi-électronique? c'est parce qu'on a introduit l'usage du bulletin papier des urnes qui sera suivi du dépouillement manuel. Mais si vous regardez bien la procédure présentée dans un document interne par la CENI, il s'agit effectivement d'abord d'un vote électronique. Je sépare ça de manière pédagogique pour que les auditeurs comprennent, oui. Même si les deux ne sont pas à séparer, ça va se dérouler concomitamment. Mais d'abord d'un vote électronique, parce qu'il y aura l'utilisation d'une machine à voter. On identifiera, on sélectionnera et on confirmera le choix toujours par en se servant des machines. Il y aura l'agrégation automatique des votes et des résultats de chaque candidat. Il y aura la production des PV électroniques des résultats. Donc, on ne peut pas avoir un PV des résultats si on n'a pas agrégé les votes automatiquement. Donc, et toutes ces données seront acheminées aussi vers le serveur central de manière automatique. Donc, la dimension électronique du vote est bien présente. Mais il y aura aussi un aspect manuel par l'utilisation d'un bulletin de vote manuel que l'électeur va introduire dans la machine à voter, qu'il va récupérer après impression et qu'il déposera dans l'urne. Donc, quand on parle du vote semi-électronique, c'est un peu ambigu parce qu'on donne l'impression qu'à un moment donné, la dimension électronique s'arrête pour laisser la place à la dimension manuelle. Mais en fait, c'est deux dimensions qui se font concomitamment et qui doivent être prises en compte lors des opérations de vote. Mmh. C'est le premier préalable que je voulais faire. Et le second concerne les éléments d'appréciation. On ne peut pas parler des avantages ou des inconvénients du vote semi-électronique sans tenir compte des trois facteurs importants. Le premier facteur, c'est la machine ou les technologies qu'on utilise. Et sur ce point, je voudrais dire que ce n'est pas la machine en soi qui pose problème. C'est l'usage qu'on en fait ou qu'on en fera dans un contexte bien déterminé. Ça, c'est une précision très importante. Le deuxième facteur important dont il faut tenir compte, c'est le facteur humain. Qui va utiliser la machine? Qui va suivre ces opérations-là? Qui va procéder et qui va contrôler les agrégations des résultats qui se font de manière automatique? Cet homme-là qui va utiliser la machine, il est dans un environnement précis et il faut tenir compte de lui. Et le dernier facteur, c'est l'environnement politique dans lequel se déroule un processus électoral. Selon que l'on est dans un environnement politique démocratique ou pas, transparent ou non, les avantages et les inconvénients du vote semi-électronique sont différents. C'est-à-dire, dans un contexte de démocratie stable, comme aux États-Unis, en France et ou ailleurs, les avantages seront importants, plus importants que dans un contexte instable où la corruption, les tripatouillages sont possibles. Et là, le facteur humain joue un rôle très important.
Voilà. Alors, on vous garde en ligne, monsieur Alain-Joseph Lomandia. Nous avons aussi les auditeurs qui nous écoutent en ces moments, qui sont avec nous en direct. Vous avez présenté là le deux préalables. On va revenir encore à vous, le temps d'écouter aussi ce qu'en pensent les auditeurs. Maître Adrien, merci d'être avec nous. Vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Pierrot et la Menji. Je salue aussi monsieur Alain.
On vous écoute, maître.
Oui, merci Pierrot de la parole. Je pense que sans préjudice de la démonstration intellectuelle et intéressante que M. Alain venait de démontrer, mais il y a aussi une dimension qu'il faut épingler, parce que j'ai bien suivi M. Alain, il a dit que donc le vote semi-électronique était ambigu, effectivement, c'est ça aussi mon point de vue, parce que lorsque la CENI, le président de la CENI était en train de détailler sur cette question-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire correctement? Parce que soit il pouvait parler du système électronique tout court, soit du système manuel. Et aussi, dire qu'il y a donc un système semi-électronique, là, je ne comprends vraiment plus rien. Heureusement que mon inquiétude venait d'être élaguée par M. Alain Lomandja. Maintenant, il faut aussi ajouter, Pierrot, que le système électronique en soi, c'est un système qui n'a aucun avantage, mais qui a beaucoup d'inconvénients. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque nous prenons le pays des vieilles démocraties au niveau de l'Europe, il y a certains pays qui avaient opté pour le système électronique, mais aujourd'hui, ce pays-là sont en train d'abandonner le système électronique pour revenir au système manuel. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que le système électronique n'a pas une garantie vraiment de fraude. Ce qui fait que ceux qui veulent revenir au système électronique, qui croient que c'est une nouveauté pour nous, c'est vraiment une très mauvaise chose. Et aussi, deuxièmement, est-ce que le moment est bien indiqué pour adopter directement le système électronique pendant que le système manuel pose encore problème dans le chef des Congolais qui ne parviennent pas à maîtriser encore, parce que nous sommes là qu'à deux élections, hein, donc l'élection de 2006 et de 2011. La maîtrise du système manuel continue toujours à se poser des petits problèmes, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, prendre directement le système électronique, je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire, c'est une façon de surcharger davantage la population congolaise et de laisser donc dans la rue pour qu'ils ne puissent pas se retrouver. Et troisièmement, vous allez vous rendre compte qu'il faut prendre le temps pour faire comprendre à la population, donc passer à ce qu'on appelle la sensibilisation de ce système-là, parce qu'il n'a jamais été appliqué dans notre pays. Mais tout ce temps-là, tout le monde se pose la question, parce que même ici à Kananga, je venais d'ailleurs de quitter des débats, parce que moi j'ai dit non, suivez la radio au Kapi, nous aurons tous les réponses par rapport à vos inquiétudes. Mais les élections finalement auront lieu quand? Parce que nous serons là devant un système nouveau qui faille mettre beaucoup de temps pour que tout le monde puisse s'imprégner des systèmes nouveaux là. C'est comme ça que moi j'ai compris en ceci. Non, la CENI, premièrement, parce que si nous entrons même dans sa compétence, est-ce qu'il appartenait à la CENI de prendre la place du gouvernement pour dire que pour minimiser les coûts? En quoi la CENI est préjudiciée lorsqu'il y a par exemple 2 milliards de dollars pour les élections? Au contraire, ce sont des sommes qui profitent à cette CENI. Donc la CENI ne dépense rien pour dire que non, pour minimiser les coûts. Et surtout que c'est l'argent du contribuable congolais qu'on est en train d'utiliser pour les élections. Donc moi j'ai dit à la CENI, non, continuons avec le système manuel, peut-être lorsque nous serons assis, nous pourrons voir comment est-ce qu'il faut adopter le système électronique.
Merci. Merci beaucoup, Maître Adrien. Il se pose une question du temps. Rappelons quand même, vous l'avez dit, on a vu le temps qu'il fallait mettre pour former les opérateurs des saisies par rapport aux opérations d'inscription des électeurs. Mais s'il faudrait aujourd'hui introduire les systèmes électroniques, c'est-à-dire qu'il faut tout l'arsenal de formation, si possible, tout ce qui doit accompagner ces travaux en amont. Et vous estimez, par le temps qui court, que ça sera difficile aujourd'hui avec les temps. Mais la question aussi de moyens, c'est pas la CENI de se plaindre du coût. Et d'ailleurs, dans le calcul fait par Monsieur Alain Lomandja, il pourra nous expliquer en moyenne, en comparant avec des machines à vote en France, par exemple, vu le nombre de bureaux de vote dans notre pays, ça veut dire on peut aller jusqu'à près des 350 millions d'euros pour arriver à se procurer de machines à voter. Alors, toutes ces questions doivent être discutées, peut-être, mais pour vous, vous estimez qu'il faut poursuivre avec le mode normal qu'on avait commencé avec depuis 2006. Le moment n'est pas encore prévu pour changer le mode de scrutin. Merci beaucoup, Adrien. Franklin, vous êtes à Bukavu. Bonjour. Franklin, bonjour. Voilà, des petits soucis avec Franklin qui est à Bukavu. Nous revenons à vous, Alain-Joseph Lomandia. Vous avez suivi Maître Adrien tout à l'heure, mais il se pose aussi cette question de méfiance, parce que vous l'avez dit, hein, la méfiance peut s'installer, bon, sur le plan de la compréhension, même de tout ce qui peut être fait. Mais est-ce que dans cette proposition de la CENI, l'idéal aurait été de proposer d'abord le débat en amont, et puis après, conclure s'il faut passer à ces modes. Mais le fait déjà de s'être procuré des machines, de passer déjà à la pratique, n'est-ce pas que ça peut encore renforcer davantage l'appréhension des uns et des autres autour des choix qu'il faut opérer, monsieur Alain Lomandia?
Effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est ce que j'ai regroupé parmi les défis politiques. Je préfère le mot défi par rapport à inconvénient ou quoi, parce que les défis peuvent toujours être relevés. Mais le défi, c'est quoi? C'est le fait accompli. La CENI est un organe indépendant qui doit mettre ensemble toutes les parties prenantes à un processus électoral et essayer, dans la mesure du possible, de favoriser un consensus pour que les élections se déroulent de manière apaisée. Or, ce qui se passe maintenant, c'est que le choix de ce nouveau mode de vote semble déjà acté par la CENI et par le pouvoir. J'ai des informations qui indiquent que probablement les machines arriveront bientôt à Kinshasa sans qu'il y ait un consensus minimal entre les acteurs politiques. Et ça va contribuer à décrédibiliser davantage même l'usage de machines en question. Les auditeurs ont posé des questions importantes. Je voudrais revenir un moment sur la question des coûts. C'est vrai que, dans une certaine mesure, l'introduction du vote semi-électronique peut contribuer sur un aspect à réduire les coûts du processus électoral, sur l'aspect de l'achat des bulletins de vote. C'est vrai qu'en 2011, on a eu des bulletins de vote assez volumineux, dont la production et le dispatch avaient coûté beaucoup à la CENI. Mais on ne nous parle pas suffisamment du coût des machines à voter et de tous les éléments qui vont avec. Par exemple, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure là, si on considère que, en moyenne, une machine à voter coûte environ 5 000 euros, et si vous multipliez ça par le nombre de bureaux de vote que nous aurons dans le pays, vous vous rendez compte que déjà l'achat même des machines à voter représentera un coût supplémentaire très important. Et donc, quand on parle de coûts financiers qui sont allégés, c'est comme si on faisait croire à l'opinion que c'est uniquement la rubrique bulletin de vote qui coûte cher dans le processus électoral. Et pourtant, il y a d'autres facteurs qui sont très importants. Un auditeur a évoqué aussi le facteur temps. Mais quand on parle du temps, souvent les gens voient les temps qui restent dans l'organisation des élections. Mais il y a une autre dimension très importante qu'on risque d'oublier. S'il est vrai que le vote semi-électronique va faciliter un gain de temps dans la compilation ou l'agrégation automatique des résultats, il se pose le problème du temps qu'il va falloir mettre dans les bureaux de vote vu la complexité de ce nouveau mode de vote-là. Mm-hmm. Parce qu'en 2011, on était parti sur un calcul de 3 minutes dans un bureau de vote par électeur. Si on introduit les 11 étapes du vote semi-électronique, on va se retrouver autour d'une moyenne de 5 minutes. Et là, je voudrais préciser que les gens qui étaient à Kananga nous disent que ça n'a pas duré 5 minutes. Mais ce sont des intellectuels. Ce sont des gens qui sont en contact avec ces machines-là depuis longtemps. Nous parlons des électeurs, des citoyens qui n'ont peut-être pas encore vu une machine électronique à quoi ça ressemble. Et c'est ces gens-là qui vont aller défiler sur un écran tactile pour savoir identifier leur candidat, savoir le choisir et confirmer leur vote, ça prendra beaucoup de temps. Et alors, si nous avons un bureau de 350 électeurs, et que chaque électeur et son accompagnateur prend 5 minutes dans l'isoloir, nous nous retrouverons avec 29 heures de vote, et alors que la loi prévoit 11 heures. Qu'est-ce qui va se passer si la nuit tombe? Où est-ce qu'on va conserver les urnes pendant que le vote va continuer le jour qui suit? Tout ça sont des éléments qui doivent inspirer les décideurs pour éviter une nouvelle catastrophe ou un chaos électoral en 2017 ou 2018.
Ok. On va écouter Franklin qui est à Bukavu. Franklin, merci. Cette fois-ci, la ligne, c'est très bon, la connexion entre Kinshasa et Bukavu. Bonjour, Franklin.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Bonjour à notre invité.
On vous écoute, Franklin.
Au-delà de ce qu'ont dit déjà mes prédécesseurs, moi, je pense que c'est aussi un mode de conflit aux jeunes. Regardez, Pierrot. Partout dans les pays développés, vous regardez, on est en train d'utiliser le mode électronique. Mais ça pose problème. Et pendant un temps, vous avez appris, même qu'aux États-Unis, un candidat avait utilisé les résultats des urnes en voulant demander ce qu'on passe au recrutage par le recrutage manuel. Et nous qui sommes encore d'une population qui, l'invité l'a dit, en majorité, nous sommes en alphabète, mais on nous amène dans un monde qui est plus compliqué. Et donc, on risque là d'assister à des problèmes qui sont plus graves que ceux que nous. Que nous avons assisté par rapport en 2011-2006. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le problème temps. Les prédécesseurs ont déjà dit que l'État que nous avons ne nous permet plus d'expérimenter ce mode-là. Parce que c'est un mode qui demande beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus de séances de sensibilisation, d'apprentissage, et l'État ne nous permet plus. Aujourd'hui, je pense que la CENI devrait se focaliser d'abord à nous produire un calendrier électoral. Si la CENI est incapable de nous produire un calendrier électoral, elle veut nous amener dans des modes semi-électroniques, je ne sais pas comment, des modes qui eux-mêmes posent problème de terminologie, qui nous posent problème, et ça prouve que le monde lui-même posera problème dans son application. Je pense à ce jour, il faut d'abord nous produire un calendrier électoral et nous permettre de voir dans quelle phase nous sommes et dans quelle phase nous allons aller, et nous laisser d'abord les modes que nous appliquons bien avant, et ça pouvait, et si ce mode pouvait intervenir. Ça ne pourrait être que dans un cas après ou dans d'autres processus. Aujourd'hui, tout le monde aspire à l'élection présidentielle et législative. Et nous voulons qu'en 2018, nous ayons un nouveau président pour pouvoir rassurer les uns et les autres. Et si la CENI doit plus faire preuve de neutralité. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir tout ce que la CENI dit est une partie de la classe politique qui a tendance à soutenir ça et une autre a tendance à le rejeter. Ça ne prouve pas l'indépendance et la neutralité de la CENI. Là, en tout cas, moi, je soutiens les avis de ces deux organisations-là. C'est vraiment un monde très écouté, un monde qui va nous prendre trop du temps.
Merci. Merci beaucoup, Franklin. Vous estimez qu'il y a beaucoup de défis aujourd'hui. Hein. Il y a la question de l'adaptabilité même d'ailleurs de ce mode et de ces machines, le facteur temps, le calendrier électoral lui-même qui est encore improbable. Mais alors, dans cette forêt d'informations imprécises, il sera difficile aujourd'hui en y mélangeant aussi les débats sur le mode de scrutin qui doit être adopté. Ça risque de poser assez de problèmes, que la CENI garde le mode qui a été toujours utilisé, mais tout en donnant des garanties qu'on puisse avoir effectivement les élections, voilà. Et puis après, on pourra expérimenter, voir comment on peut introduire ces modes-là, semi-électroniques ou bien électroniques. Merci beaucoup, Franklin. Maître Gaston, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Merci, Pierrot. Je vous salue aussi.
On vous écoute, maître.
Bon, j'allais dire que nous devons évoluer. Hein. Nous devons évoluer. Le monde évolue. Vous savez, les travaux qui s'effectuent manuellement ont besoin d'être mécanisés. Mais dans le cas de CES, c'était des votes manuels. Et quand on veut électroniser les choses, moi je pense que c'est une bonne chose, sauf que dans des pays développés actuellement, ce sont ces modes-là qui sont d'actualité. Et d'ailleurs, moi, j'ai proposé même le mode à main levée, à main levée dans des circonscriptions où il n'y a pas PDG, il n'y a pas beaucoup de gens. On peut procéder par qui sont pour et qui sont contre, voilà. Ça pouvait aussi passer dans le sens de minimiser, et surtout que aussi la date de la tenue des élections n'est pas encore connue. Nous devons nous habituer avec ces nouveaux modes, à mon avis. Et il faut aussi savoir qui décide des modes de scrutin dans ces pays. Si c'est la CENI qui a ce pouvoir-là, laissons la CENI faire son travail. Si ce sont les institutions établies, laissons ces institutions faire ce travail. Hein. C'est pas mal de donner son point de vue, mais sachant que ce point de vue peut être pris en considération ou pas. Hein. Mais nous avons constaté aussi qu'on a tendance à tout douter dans ce pays. Hein. On avait jadis les mots de Manuel, il y a eu des critiques, des fraudes. Moi, j'ai même vu, hein, sans vous mentir, j'avais vu les gens hein, changer les bulletins, remplir des bulletins dans un endroit précis et ils viennent, pendant les dépouillements, des trucs comme ça, venir changer les bulletins qu'ils avaient remplis eux-mêmes et proclamer leur candidat vainqueur. Je pense que le problème de fraude, c'est le problème des individus. Mais que ce soit ces modes que nous voulons opter, que l'autre mode, s'il n'y a pas si les individus sont mal intentionnés, il y aura toujours fraude. Mais moi je pense que dans ces pays, il faut que nous ayons aussi le sens de vouloir voir les choses dans le bon sens. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre, moi, personnellement. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, s'il y a pendant que nous faisons des débats ici, les gens ont tendance à voir les mauvais côtés. Pourtant, mon père m'avait dit que même s'il y a des mauvais côtés, il faut d'abord commencer par le côté bon et puis finir par le pays. Le Congo, c'est notre pays, vraiment. Le Congo, c'est notre pays. Nous devons réfléchir dans le sens de proposer les solutions si nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au lieu de penser qu'éternellement, la RDC restera le dernier de tous les États du monde. Et pourtant, ce qui se passe chez nous n'est pas différent de ce qui se passe aussi ailleurs. On sait voir quand même les autres compatriotes un peu réticents dans le sens de critiquer ce qui se passe dans leur pays. Ou bien, disons que si on ne croit plus à rien, qu'on laisse tomber les élections, qu'on laisse tomber vraiment les élections. Moi, je pense tout ça aussi parce qu'on a assisté, ça fait un bon moment là qu'on assiste à des politiciens qui utilisent ouvertement les mensonges. Hein, donc vous dites les mensonges, ça sent que ça ne va pas se réaliser ainsi. Et lorsque les mensonges vous attrapent, vous n'êtes pas humble d'accepter d'accepter ces comportements fautifs. On cherche automatiquement la version des faits. C'est ce qui fait aussi qui fait mal avec nos politiciens que nous voyons actuellement dans ces pays.
Merci beaucoup, hein? Maître Gaston. Vous estimez que c'est une question d'évolution. La technologie évolue. On peut adopter les modes électroniques, semi-électroniques. C'est une question de responsabilité aussi. On ne sait pas qui doit décider. Si c'est la CENI, on laisse la CENI décider. Si c'est le gouvernement, on laisse le gouvernement décider. Mais au-delà de tout, vous estimez que ça soit le mode traditionnel, que ça soit le mode électronique ou semi-électronique, le problème c'est l'individu. Si l'individu est mal intentionné, il peut utiliser la fraude dans tous les deux sens. Alors pour vous, le débat doit être plus constructif. Merci beaucoup, Maître Gaston. Félicien, vous gardez la ligne. Je rappelle encore que vous pouvez nous joindre au 081-890-4969 ou 09-97-06-4969 pour intervenir en direct dans ces magazines consacrés, bien sûr, à cette question de mode de scrutin à choisir entre le mode semi-électronique et le mode traditionnel.
Les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Félicien, vous êtes avec nous à Kinshasa. Votre prédécesseur, c'est Maître Gaston, tout à l'heure venait de dire que le débat aujourd'hui, c'est pas autour du vote semi-électronique, du vote traditionnel, car les cris de fraude ont eu lieu en 2006, en 2011. Alors le problème, c'est pas de changer le mode, mais c'est le problème des individus et les intentions que les gens peuvent avoir. C'est là vraiment le véritable débat, Félicien. Bonjour.
Ah, bonjour, Pierrot. Bonjour, Monsieur Alain. Et notre invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Moi, je pense que, ça c'est vrai ce que M. Gaston dit, mais je pense que M. Nanga est en train de compliquer une situation qui est déjà trop compliquée. On lui a donné la mission d'organiser les élections, mais il est en train de jouer un autre rôle. Quand vous suivez, ça marche. Nous pensons que les peuples congolais attendaient l'alternance en 2016. Et c'est pas en 2017 qu'on devait aller aux élections. Lui, il commence par l'enrôlement, province par province, alors que ses prédécesseurs, 2006-2011, ne l'ont pas fait de cette façon-là. Et lui, à chaque moment, il est en train de changer, mais il ne change pas pour améliorer, il change pour retarder, afin que la tension monte toujours, pour que les élections n'arrivent pas le plus rapidement possible. Aujourd'hui, et à quelques mois seulement, on suppose que les élections devaient avoir donc lieu avant fin octobre, puisqu'on n'a pas eu ça à fin, et plutôt avant fin 2017, parce qu'on n'a pas eu ça à fin 2016. C'est à ce moment-là que M. Nang avait changé les modes de vote, les systèmes de vote. Mais quand nous entendons même ce que les spécialistes, les experts disent, nous avons besoin du temps pour nous adapter et pour connaître aussi les prix de ce que ça va nous coûter et combien ça va nous coûter. On ne connaît pas ça, ce sont des préalables qu'on devrait connaître. Et le temps d'adaptation pour ceux qui doivent utiliser la machine, dans l'isoloir, il y aura des techniciens là-bas ou bien c'est seulement l'électeur qui va se trouver dans l'isoloir devant la machine. Et tout ça, nous ne connaissons pas. Mais il est déjà au point de commander les machines qui doivent arriver. Et si vous pensez qu'il est en train de faire son travail comme il devrait le faire, je pense que s'il y a un problème de modes de scrutin qu'on doit changer, c'est pas le problème de la CENI, c'est un problème politique. C'est les acteurs politiques qui doivent décider et pour qu'on change. Mais c'est pas la CENI qui se réveille le matin qui change les modes de scrutin, parce que s'il y a un problème qui arrive, il ne sera pas responsable de cette situation. Nous pensons qu'on devrait conseiller à M. Nanga qu'il est fils de ce pays et qu'il arrête de faire ce qu'il est en train de faire parce que l'argent seul ne suffit pas. Ceux qui ont été avant lui, ils se sont enrichis. Lui, il va s'enrichir, mais c'est pas tout. Mais qu'il amène la situation du pays à l'apaisement, que les gens aillent aux élections parce que il n'y a pas de raison de continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire.
Merci beaucoup Félicien, vous avez dit qu'il y a autant de préalables sur lesquels il fallait compter. C'est la question de l'adaptation, le temps, les coûts, les déroulements des opérations, et comment tout ça, ça devait être décidé. Et vous estimez que, au-delà de tout, c'est une question aussi hautement politique, que les acteurs politiques pouvaient dire oui, bon, nous optons pour un tel mode, parce que dans ces conditions, et déjà qu'il y a autant de tensions, autant d'interprétations, de méfiances, ajoutant encore sur cela les débats autour du système qui doit être adopté et qui est déjà peut-être la CENI peut commander le matériel, ça peut encore continuer à créer la méfiance et conduire encore les gens à toutes formes de suspicions. Et là, il faut tenir compte des experts et des paramètres en présence pour qu'on arrive vraiment à apaiser la situation. Merci beaucoup, Félicien. Franck, vous êtes à Vienne. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour aux amis de PA. Bonjour à l'invité et merci beaucoup pour son introduction intégrale qui éclaire la suite de nos échanges. Ouais. Personnellement, je partage ces idées et conceptions par rapport à la thématique du jour, car sur mon point de vue, quelque part, je crois avoir écrit ceci. Pour ce genre de vote, il y a encore des paramètres à expliquer en amont et en aval, même aux intellectuels qui semblent bien maîtriser ce secteur. Puis, pour ce genre de vote, nous devons éviter de tomber dans le pessimisme des uns et les complaisances démesurées des autres. Car nous devons rappeler qu'organiser des votes électroniques ou semi-électroniques chez nous est encore tôt et les conséquences risquent d'être catastrophiques. Il y a seulement peut-être par rapport à ce que l'invité vient de... Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute.
Oui, par rapport à ce que l'invité vient de dire, moi je me pose seulement des questions. Monsieur Nanga n'est là que comme président de la CENI. Et pour certaines suggestions, il doit d'abord discuter avec les politiciens, avec les peuples, avec la société civile et avec tout le monde. Mais à base de quel droit peut-il déjà se permettre de faire une suggestion et de passer directement la commande? Ça, c'est une des questions à laquelle on doit peut-être avoir des réponses. Une autre question, mais pourquoi n'avait-il pas déjà pensé à faire cette suggestion vers 2012? Comme ça, ça pourrait déjà servir de test avec les élections des députés dans certaines provinces. Parce qu'avec les élections de certains députés, il y aurait moins de gens, il y aurait peut-être moins de 100 personnes pour tester ce système. Et à base de ces tests, on pouvait faire la part des choses pour tirer un peu des conséquences bénéfiques et néfastes par rapport à un système qui doit être appliqué pour plus de 40 millions de citoyens. Puis par rapport à la démonstration de notre invité, il est en train de faire voir que ce système, quoique possible et bénéfique, risque encore de nous entraîner à beaucoup de problèmes parce que les gens n'ont pas été initiés par rapport à ça. Puis nous savons que notre pays, jusqu'à 80%, 90%, les citoyens n'ont pas accès à l'énergie. Et l'usage de l'Internet, ça pose encore beaucoup de problèmes. Et quand M. Nanga se permet d'imposer ce système, ça cache quoi? Monsieur le journaliste, il y a lieu de dire que, à voir tout ce qui est en train de se passer, la CENI s'est déjà choisi son camp. Donc ce n'est même plus un secret. On peut nous demander de démontrer tout ça, mais quand on voit comment ça se passe, comment M. Nanga est en train de mettre ses positions et comment il cherche à imposer un système qui n'est maîtrisé que par lui-même, donc on n'est plus gamé pour ne pas arriver à comprendre que M. Nanga s'est déjà choisi son camp et le Parlement, la Chambre basse, est en train de jouer la carte de son côté et le gouvernement se montre aussi déjà hostile par rapport à l'avancement de ce processus. Et au lieu d'avancer, M. Nanga est en train de nous distraire. Ce qu'on attend de lui, c'est de nous donner, de publier le calendrier électoral. C'est de tout faire pour finir l'enrôlement dans les Kassai. Et ici, au niveau de la diaspora, on l'attend parce qu'il nous a promis que nous devons aussi participer à ce vote. Et je crois que ce qu'on nous attendait de lui, ce sont ces paramètres techniques et non d'aller nous suggérer vote électronique, vote semi. Tout ça, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment.
Merci. Merci beaucoup, Franck. C'est pas encore le moment. On revient à vous, monsieur Alain-Joseph Lomandia. Vous avez suivi les compatriotes qu'ils reviennent encore sur le rôle que la CENI devait jouer dans ces débats, dans la clarification de données, dans la démarche même qu'il fallait adopter avant peut-être de procéder à la commande, au test de matériel pour éviter ces suspicions, comme je le disais tout à l'heure. Mais si vous avez suivi monsieur Alain Lomandia, notre ami maître Gaston de Kinshasa, il a dit le problème c'est pas le mode de scrutin. Il peut être semi-électronique, électronique ou manuel, mais le problème, c'est l'individu avec la pensée qui anime l'individu. Si cette pensée ne change pas, quel que soit le mode de scrutin choisi, le problème peut toujours arriver.
Oui, je salue Maître Gaston et je pense que s'il nous a suivi dès le début, j'avais précisé qu'il y avait trois facteurs importants. Il y a la technologie, il y a le facteur humain qui est important et sur lequel il revient, et il y a l'environnement global, l'environnement politique global dans lequel les élections se déroulent. En fonction de ces trois facteurs-là, on peut savoir si un pays est déjà capable ou non d'introduire tel ou tel système de vote. Ce qui pose problème dans le cas du Congo, c'est que le nouveau mode de vote choisi par la CENI est plus complexe que l'ancien et cette complexité risque de désavantager certaines populations. Je rappelle par exemple qu'avec le vote manuel, en 2011, nous avons eu presque 5% des bulletins nuls parce que les gens n'étaient pas capables de bien voter. Et si on introduit la machine à voter, avec la possibilité, donc cette procédure à 11 étapes que je n'ai pas décrite ici faute de temps, mais qui sera présente dans les bureaux de vote les jours des élections. Ça va encore compliquer les choses pour les électeurs et on ne sait pas, il y a même quelqu'un qui a posé une question, c'est Félicien qui a posé une question très importante. Qu'est-ce qui va se passer dans les isoloirs? quand on n'a pas, est-ce qu'on aura des techniciens là-bas? Quand on n'a pas d'aptitude technique, comment on va jouir de son droit de citoyen d'effectuer son vote? Est-ce que le caractère secret du vote sera encore respecté dans ce contexte-là? Que fera-t-on si on se retrouve dans un village où il y a très peu ou pas du tout d'électeurs qui peuvent assister les analphabètes, entre guillemets, excusez-moi cette expression-là, mais les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ou qui ne savent pas utiliser une machine à voter? Il n'y a pas beaucoup de gens pour les assister. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, ce sont des questions importantes. Et quand je parle de défis, c'est juste pour que la communauté nationale se mette à réfléchir. Félicien, Maître Gaston a fait poser la question de savoir qui décide du mode de vote. Mais le mode de vote est décidé par le législateur qui avait dit dans la loi électorale qu'on peut voter manuellement ou par voie électronique, mais qui avait en même temps précisé que le vote électronique n'était pas à envisager pour au cours du processus électoral qui est en cours. Je peux ajouter un élément, si vous permettez, Pierre.
Oui, allez-y, M. Alain.
Pour qu'un vote semi-électronique puisse réussir convenablement, il faut que la loi encadre ce mode de vote-là. Par exemple, la loi doit pouvoir préciser quelles sont les opérations électroniques qui peuvent ou doivent être observées par les témoins des partis politiques et les observateurs nationaux et internationaux. Rappelez-vous les débats sur le serveur, la base de données en 2011. Ça avait pourri le processus électoral. La loi doit préciser lesquels des PV, entre les PV automatiquement produits par la machine à voter et les PV remplis manuellement, lesquels à force légale dans la proclamation des résultats ou dans la gestion des contentieux. La loi doit aussi préciser combien de personnes un électeur peut assister en cas de difficulté de vote au niveau de l'utilisation de la machine à voter. Dans la loi actuelle, il est dit qu'il y a un nombre limité qu'un électeur peut assister. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de loi pour préciser tout cela? Et je rappelle que la CENI attend toujours certaines lois du Parlement. Elles ne sont pas encore votées. Et si on adopte précipitamment ce mode de vote-là, ça risque encore de retarder les choses de manière qui va compliquer, crisper l'atmosphère politique. Et l'idée ici, ce sera d'avoir... On n'aura plus des élections apaisées, mais on va aller de tension en tension, surtout si on arrive à imposer ce mode de vote sans l'accord de toutes les parties prenantes.
Mmh, et voilà.
Et y a des gens qui semblent dire que on a connu des élections en 2006 et en 2011, il y a eu des fraudes et des tripatouillages. Et on semble implicitement impliquer le vote manuel dans ce sens-là. Non, c'est vraiment dénaturer les choses. Ce n'est pas le bulletin de vote manuel qui a fraudé ou qui a triché. C'est toujours la personne humaine, le facteur humain. Et ce facteur humain ne disparaît pas dans l'utilisation de machines à voter. Mmh. Il est toujours présent. Il n'y aura plus de centres locaux de compilation où on pouvait être répatrié comme en 2011, mais il y a toujours cette possibilité. Et si vous entrez dans le site du Centre Carter, qui est pionnier dans le domaine de l'observation du vote électronique ou semi-électronique, vous trouvez que la possibilité d'une manipulation intérieure des résultats est toujours présente dans toute cette procédure-là. Donc je suis d'accord avec Gaston, il faut être optimiste, mais il faut aussi ouvrir les yeux pour regarder si les conditions sont remplies pour envisager un tel mode de vote au Congo.
Voilà. On va écouter aussi Alain Roy qui est à Kananga, ingénieur Valérie à Kinshasa. Mais sur la page Facebook, il y a aussi les débats qui se déroulent. Abamungu dit qu'à son avis, le peu de temps qui nous reste ne doit plus être consacré à des contradictions liées au mode d'organisation des élections, à l'organisation du référendum ou à des dialogues dont les conclusions ont toujours du mal à être respectées par l'homme politique congolais. La CENI et les acteurs politiques doivent cesser de détourner l'attention de la population focalisée sur les élections cette année. Nous en avons marre des structures qui naissent du jour au lendemain avec pour but de se positionner politiquement au nom du peuple. Sylvain Mangolais s'est dit sidéré par cette énième distraction de la CENI. La majorité de la population congolaise n'a pas l'accès à la nouvelle technologie. Le courant électrique est presque une denrée rare. Est-ce que le président de la CENI a eu le temps de poser une simple question à ceux qui étaient sur le terrain lors de la cartographie pour s'imprégner des difficultés auxquelles ils se sont heurtés? Que les bureaux climatisés ne deviennent pas une source d'un cœur de serpent pour faire souffrir tout un peuple pour les intérêts égoïstes. Il y a Jean Odiane, il dit qu'il est vrai qu'en principe la CENI est une structure technique et indépendante à l'appui, de l'appui à la démocratie dans notre pays, mais les dirigeants sont nommés par la politique et la différence avec la société civile où la population appuie la bonne marche de cette démocratie en contribuant à travers des textes et à travers des taxes d'impôts. En ce moment-là, et la politique et la CENI doivent suivre la voie choisie par la population à travers la société civile. En bref, la société civile a raison, car il semble que la CENI est au service de la politique et non au service du peuple. John Musili rejette... dit ceci, rejeter ou pas, le plus important pour mettre fin à cette crise qui ronge le pays, c'est d'aller aux élections, car la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 n'a pas prévu un seul mode électoral. Ce que la loi dit, on peut bien le faire. Alain Roy, vous êtes à Kananga. Bonjour, merci d'être avec nous dans cet échange.
Je vous en prie, alors.
On vous écoute, Alain Roy.
Oui, moi je pense que rejeter les modes de semi électronique ou pas, ça ne sera pas l'essentiel. Il faut se poser d'abord la question, est-ce qu'il y a la volonté dans tout ça? La CENI, d'abord, a la volonté d'organiser les élections cette année. Je dis, seront en train de manier, de manipuler ces machines-là ces jours-là. Alors, si ce sont toujours des gens, comme il y a eu Ford, en 2011-2006, ils peuvent encore avoir des fraudes, même actuellement. Je pense que dans tout ça, s'il y a la volonté, tout le monde devrait être derrière ces histoires-là. On a toujours dit, celui qui a été mordu par les chiens, crée même un petit rien comme ça. Comme les Congolais savent déjà qu'il y a eu fraude en 2011, en 2006, à combien beaucoup plus forte raison cette fois-ci, il faut encore adopter des systèmes pareils. Moi, je pense que la CENI pouvait s'intéresser plutôt à lutter contre les fraudes déjà connues en 2011 et 2006, au lieu de créer encore des modes qui doivent prendre les gens du temps pour en savoir beaucoup plus. Je me demande si ces modes-là, si ces machines-là arrivaient peut-être au village, là où il y a les mamans, les vieilles mamans, les vieux papas, qui ne savent pas manier ces histoires-là. Ça ne sera pas encore une manière de frauder, ça sera encore une manière de tromper ces vieilles personnes-là pourvu que ça soit encore des problèmes.
Voilà. C'est au-delà de toutes les questions-là, Alain, comme vous estimez, parce que, comme l'a dit M. Alain Lomandia, quand vous regardez dans la description, il faut quelqu'un qui regarde l'écran, il défile sur l'écran pour voir la photo de son candidat. Et il pointe sur cette photo, la photo s'agrandit, alors il peut voter, mais tout comme il peut aussi annuler le vote. Mais tout ça pose une question d'accès à la technologie. Mais pour vous, le problème, c'est pas tout ce débat. Le problème, c'est la volonté réelle même d'aller aux élections. C'est cette question que vous posez aujourd'hui. Merci beaucoup, Alain Roy, de nous avoir appelé des Kananga. On rentre à Kinshasa avec vous, Valérie. Merci de nous avoir rejoint à ce niveau du débat. Bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour et félicitations à l'invité.
On vous écoute.
Ok, merci. C'est aujourd'hui que je deviens, disons que je suis édifié en ce qui concerne ces mots de scrutin, contrairement à l'un des invités que vous aviez amené autrefois, qui avait donné pratiquement des positions partisanes. Monsieur Pierrot, à entendre clairement les techniciens en la matière, vous comprendrez que c'est un mot de vote que nous devons éviter pour la sécurité. Lorsque nous lisons la Constitution, j'aime bien faire les rapports entre le droit et la sociologie pour dégager l'esprit du législateur. Mais papa, quand nous lisons très bien la Constitution, nous sentons que la vie politique se mène entre trois acteurs. Il y a le gouvernement, l'opposition et le peuple. Et au centre, c'est toujours le peuple. Parce que c'est le peuple qui est le chef de l'État, lequel nomme le premier ministre, il élit encore les députés, dont le programme du gouvernement sera approuvé. À ce moment, ça devient le programme du Parlement, et non du gouvernement, donc du peuple, il s'en approprie. Et l'opposition est là pour faire le contrepoids, parce que les hommes sont toujours subjectifs, ils ont toujours une certaine subjectivité relative. Et enfin, quand tout le monde ne plaît pas au peuple, le peuple lui-même, la Constitution prévoit qu'il peut encore se manifester. Mais écoutez, la CENI n'est pas notre chef. C'est nous qui sommes son chef. Les élections sont organisées parce que nous, les peuples, nous avons demandé à la CENI de les organiser à notre place. Mais la CENI a tendance à nous imposer. Elle n'a pas à nous imposer. Aujourd'hui, vous remarquerez que depuis la création du monde, la base de toute cohabitation, c'est la confiance. Depuis même le jardin d'Éden. Même Dieu n'avait pas imposé Ève à Adam. Il a présenté Ève et Adam consenti à déclarer un poème et dès lors, la vie pouvait évoluer. Et c'était la naissance même de la sociologie. Mais la majorité, si on ne lui fait pas confiance, c'est du fait de sa propre faute. Je vais vous donner deux exemples qui prouvent à suffisance que la majorité est en connivence avec que la CENI est en connivence avec la majorité et non avec le peuple. Elle roule pour la majorité. Un, vous avez remarqué que c'est lorsque M. Corneille Nanga est allé déclarer à Paris qu'il ne sera pas organisé les élections d'ici 2018, alors qu'il devrait attendre une réunion tripartite. Il l'a fait et ce n'est qu'après que la majorité a aussi commencé à relayer. Comme si ce sont des amis qui se disent « Yo, loba, si manga na robe tatangwa ». Lorsque la majorité a voulu qu'on organise les élections, y compris dans les provinces dont, pour lesquelles la Cour constitutionnelle a rendu des arrêts irrévocables, la CENI est allée organiser. Je ne vais pas aller loin parce que je ne dois pas monopoliser la parole.
Rapidement mais voilà d'ailleurs, parce qu'il y a aussi Raphaël qui attend, oui.
Que la CENI est inféodée. Si la CENI avait réuni tout le monde, parce que ce n'est pas son affaire, c'est l'affaire du peuple. D'abord, eux-mêmes, les membres de la CENI ne peuvent pas aller aux urnes. C'est nous qui irons aux urnes. La CENI devrait réunir tout le monde. Prendre le temps qu'il faut. Arriver jusqu'à convaincre les gens. Si le législateur ne veut pas, il déclasse. L'invité vous a dit que la loi a déjà été votée et on avait dit que pas question de mode électronique. Mais comme en vertu de quel pouvoir la CENI est allée commander les machines. D'ailleurs, même toutes ces commandes-là, la formation des techniciens, ça relève du calendrier électoral. Donc, aujourd'hui, la CENI fait ce qui devait être prévu dans le calendrier électoral, tout en nous disant qu'il est impossible de publier le calendrier électoral. Ça, c'est une farce, pratiquement.
C'est au-delà de tout ça qu'il faut que chacun assume ses responsabilités pour permettre à ce que les processus puissent évoluer. Merci beaucoup, ingénieur Valérie. On va terminer avec vous, Raphaël. Vous êtes à Yélébo. En une minute et demie, votre point de vue autour de cette question et permettre à Monsieur Alain Lomandia de conclure. Raphaël, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour monsieur.
Allez-y.
Tout le monde de Radio Capi,
voilà. On vous écoute rapidement, oui.
On doit électroniser les histoires juste quand on a un terrain d'entente dans le pays. Et que tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas sur le même point de vue. Comment est-ce qu'on doit électroniser les histoires? Et puis, le système de mode électronique, ça doit prendre encore du temps. Il nous faut aller soit une année ou soit après 6 mois, vous voyez, ça va prendre du temps. Donc, on ne doit pas déclarer de prendre les histoires. On doit revenir à notre système, ancien système.
Très traditionnel et pouvoir discuter. Merci beaucoup, Raphaël. On vous écoute, monsieur Alain Lomandia. En une minute, quelle conclusion on peut tirer autour de cette question rapidement?
Oui, ce qu'on peut retenir, c'est que il faut faire des choix. Mais des choix qui servent l'intérêt supérieur de la nation, de la paix et du progrès. Le choix du vote semi-électronique dans un contexte politique agité où le peuple attend les élections depuis plus d'une année risque de compliquer davantage les choses, même si la CENI ne le dit pas pour l'instant. Alors ce que je peux dire vraiment, c'est qu'un processus électoral, c'est d'abord un processus qui appartient à un peuple. Si on a choisi l'option des commissions électorales indépendantes, c'est pour favoriser la participation des citoyens et la crédibilité des processus électoraux. Dans l'allure où vont les choses, je crains beaucoup que la CENI, si elle force les choses et impose un fait accompli, que la CENI complique l'avenir du pays. Et donc, il y a même d'autres aspects qui viennent d'être évoqués par les auditeurs. C'est pas évident que ça fonctionne convenablement, ces machines-là, dans notre contexte congolais. Par exemple, il faut de l'Internet haut débit. Je ne sais pas si ces machines seront pourvues d'un système d'alimentation, de fourniture d'Internet automatique ou s'ils vont dépendre des réseaux qu'on a dans le pays. Ça, c'est un autre facteur important. Mmh. Il y a beaucoup d'aspects du processus de vote semi-électronique qui ne peuvent être observés par les observateurs et les témoins des partis politiques. Donc la contestation risque d'être encore plus grande à la fin du processus que ce que nous avons vécu en 2011.
Merci beaucoup, monsieur Alain Joseph Lomandia. Vous êtes analyste des questions électorales. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci à toute l'équipe des productions des paroles aux auditeurs. Sylvain Matundu était à la mise en onde, Nico Kalamba et à la réalisation, Gilles Lungembo à la coordination. Et Piero Elamenji vous a présenté cette émission sous la supervision de Martin Seboujangwe. On retrouve paroles aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie des Radio Capi. On se retrouve le lundi pour le prochain numéro des paroles aux auditeurs. Et merci à l'ensemble des auditeurs. Mais le débat s'est poursuivi sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Au revoir.